Concrètement, ça veut dire que ça va empêcher de nouvelles victimes dans le futur, puisqu'il y aura moins d'utilisation d'armes à sous-munitions, que les territoires pollués devront être dépollués. Et puis nous, ce qu'on espère vraiment, c'est que l'impact de cette convention sera le même que celui du traité sur les mines antipersonnelles. Aujourd'hui, il y a 104 États qui ont signé la convention sur les armes à sous-munitions, c'est plus la moitié des États dans le monde. Et on sait que ça peut faire pression sur tous les autres États, même ceux qui n'ont pas signé, puisque c'est une arme qui maintenant devient stigmatisée par la communauté internationale. On sait que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré à l'occasion de cette 30e ratification que la rapidité du processus d'interdiction prouvait le rejet de la communauté mondiale de ces armes terribles et injustes. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est non seulement que les États partis arrêtent leur utilisation, mais que aussi les autres États arrêtent de produire, d'utiliser.
Qui sont les grands absents de ce traité et pourquoi ?
Alors il y a encore des pays qui stockent énormément de sous-munitions, qui sont hors de ce traité ou qui en produisent. C'est le cas des États-Unis, un des premiers pays stockeurs, ou de la Russie, de la Chine. Ce sont un peu les mêmes pays, la même liste de pays que pour le traité des mines antipersonnelles, malheureusement. Cela, bien sûr, on espère que le traité va avoir une influence sur leur politique nationale, comme c'était le cas sur les mines antipersonnelles, puisque même si les États n'ont pas interdit les mines antipersonnelles, de fait, ils n'en utilisent plus, ils n'en produisent plus, ils n'en transfèrent plus. Donc ça, c'est vraiment... nous, on est confiants que le traité sur les sous-munitions va avoir le même effet. Et puis, on espère aussi que de nombreux États vont rejoindre rapidement le traité. Il y a énormément de pays qui ont par exemple signé le traité d'Ottawa, qui n'ont pas encore rejoint la convention d'Oslo, parfois plus pour des questions diplomatiques ou de temps diplomatique. Donc on sait qu'il y a encore possibilité d'avoir de nombreux pays qui vont rejoindre l'interdiction sur les armes à sous-munitions, notamment cette année, on espère, puisque la première réunion des États partis aura lieu au Laos à la fin de cette année. Un des pays les plus affectés par les armes à sous-munition. Et on espère que d'ici là, de nombreux nouveaux pays auront rejoint le traité d'interdiction.
Est-ce que ce traité prend en compte les victimes également ?
Alors ce traité a un article particulier sur la question de l'assistance aux victimes, qui est un article vraiment très très fort, qui a largement repris les propositions d'ailleurs des ONG qui travaillent auprès des victimes. Et c'est vraiment une avancée spectaculaire du droit international, puisque d'une part, il reconnaît la définition de victime en comprenant à la fois la victime directe, mais aussi sa famille, et les communautés affectées. Donc ça donne vraiment une définition large de ce qu'est une victime de bombe à sous-munition. Et d'autre part, les États affectés ont une série de mesures à mettre en place très strictes pour aider les victimes sur leur territoire. Et puis ce traité également demande aux États bailleurs, donc les États qui ont la possibilité de financer l'assistance aux victimes, de les soutenir. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on travaille énormément auprès des pays européens notamment, pour s'assurer que le financement de l'assistance aux victimes sera suffisant dans les années à venir.